Aucun ne fait certain dessein de sa vie et n'en délibéron qu'à parcelle. Michel Ekem de Montaigne, Essai. Un caractère moral s'attache aux scènes de l'automne, ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui se fanent comme nos heures, ces nuages qui fuient comme nos illusions, cette lumière qui s'affaiblit comme notre intelligence, ce soleil qui se refroidit comme nos amours, ces fleuves qui se glacent comme notre vie, ont des rapports secrets avec nos destinées. François-René de Chateaubriand, Les Mémoires d'Outre-Tombe. Prologue. Chaque matin, le miracle se reproduisait. Tel un songe vaporeux échappé aux lèvres ensommeillées d'un ange, la cité émergeait peu à peu des brumes de la lagune. Le campanile de San Giorgio Maggiore perçait le premier, vigie solitaire et mélancolique. À sa suite, l'île tout entière dessinait sa nostalgie marine dans des dégradés de bleu et de gris. Puis, à mesure que les rayons du soleil dissipaient les nappes de brouillard, le rêve s'affermissait. La ville, à son tour, émergeait du néant. Abandonnant ses contours fantasmatiques, elle offrait au regard les dômes de ses églises, la splendeur orgueilleuse de ses palais, les couleurs chatoyantes de ses façades. Un charme puissant et intemporel se dégageait de cette chimère qui triomphait du mouvement des eaux pour affirmer la suprématie de choses pourtant inanimées. La pierre et la brique, les ponts et les statues, l'or et le marbre. Toutes les nuits, la Sérénissime se rêvait maîtresse du monde, et chaque aube éclose lui en offrait la promesse renouvelée. Ce matin-là, cependant, à l'heure mauve où Venise renaissante se grisait de sa propre image au miroir inversé des canaux, un bruit insolite vint troubler la quiétude habituelle des alentours du couvent dei Frari. L'écho d'une course précipitée raturait le silence des lieux, pourtant propice d'ordinaire au recueillement. Amplifié par une voûte en pierre, le martèlement précéda la soudaine apparition d'un homme sur le quai bordant l'arrière de l'édifice religieux. Débouchant d'un passage couvert, l'individu, qui semblait aux abois, tourna la tête de droite et de gauche et lâcha un juron entre ses dents. La barque qui aurait dû l'attendre n'était pas au rendez-vous. « La peste soit de ce maudit génois ! Si je m'attarde dans les environs, les autres ne vont pas manquer de me tomber dessus. » L'homme portait un ample manteau de futaine au col relevé, ainsi qu'un chapeau à larges bords rabattu sur ses yeux. Cet accoutrement dérobait aux éventuels regards une physionomie par trop caractéristique. Ce n'était pas tant ses traits rudes, marqués par d'épais sourcils se rejoignant au milieu du front, que l'inconnu cherchait à dissimuler, mais plutôt son absence totale d'oreilles. L'amputation des deux pavillons laissait affleurer les conduits auditifs dans un bourgeonnement de chair rosâtre et affreusement tuméfiée. Un châtiment peu répandu, mais qui offrait l'avantage de permettre l'identification immédiate des espions démasqués auxquels on avait accordé la vie sauve. L'inconnu hésitait encore sur la conduite à tenir, lorsqu'une cloche, dangereusement proche, se mit à carillonner sur un rythme frénétique. Le tocsin, déjà. Il n'était plus temps de tergiverser. Le vol dont il s'était rendu coupable venait d'être découvert. Les soldats chargés de protéger la retraite secrète de Giovanni Soro allaient se lancer à sa recherche. Il était tout simplement inconcevable qu'il le laisse emporter le fruit de son larcin. Au regard des intérêts stratégiques de la République, ce dernier représentait un enjeu bien trop important. Instinctivement, l'homme aux oreilles coupées porta la main à son col. Ses doigts se resserrèrent sur un lourd médaillon en or. C'était ni plus ni moins que le destin de l'Europe qu'il tenait au creux de sa paume. La précarité de sa situation l'arracha à ses pensées. Faute d'embarcation, il lui était impossible de rejoindre rapidement le Grand Canal par le Rio di Tomà. Quant à longer les quais, il n'y fallait pas songer. Leur exiguïté n'offrait ni cachette ni solution de repli si, par malheur, des gardes venaient à lui barrer la route. Non, décidément, sa seule chance était de se diriger au nord et d'emprunter le labyrinthe de galeries et de passages couverts qui, de placettes en ruelles étroites, reliait le couvent au jardin Capelloni. Le fugitif tourna les talons et s'enfonça de nouveau sous la voûte obscure par laquelle il était arrivé. Il progressait rapidement, mais en prenant garde cette fois à ne pas trahir sa présence. Lorsqu'il eut parcouru une trentaine de toises, l'écho de tintements métalliques et de pas précipités le fit tressaillir. Le bruit venait à sa rencontre. Dans la pénombre encore invisible, mais toute proche, une troupe armée progressait droit sur lui. L'homme ne céda pas à la panique. Lors de son premier passage, il avait repéré une sorte de corridor ménagé entre deux façades. Si ses repères étaient bons, il ne tarderait pas à l'atteindre. L'issue se situait exactement à l'endroit où il le pensait. Quand il y parvint, les éclats de voix de ceux qui le traquaient étaient devenus presque distincts. Il n'aurait pas fallu poursuivre beaucoup plus longtemps dans la même direction, sinon il se serait précipité de lui-même dans les bras de ses ennemis. Le boyau dans lequel il bifurqua était si étroit qu'il ne pouvait avancer de face et se trouvait contraint de progresser de biais, ses épaules et ses genoux raclant le crépi des murs. Une odeur nauséabonde de vase, d'urine et de chair en putréfaction lui agressait les narines. Ses bottes enfonçaient dans une fange visqueuse dont il préférait tout ignorer de la composition. À l'autre extrémité, la trouée débouchait sur une courette pavée de galets. Un escalier en pierre d'Istrie menait à une loggia dissimulée sous les feuillages entrelacés d'un chèvrefeuille et d'une glycine. Le fuyard marqua une pause et prit le temps de s'assurer que la voie était libre avant de s'élancer à découvert. À grandes enjambées, il traversa la cour en diagonale, contourna le puits central en marbre blanc et rose, avant de s'engouffrer sous une nouvelle galerie couverte. Il venait à peine de disparaître qu'un soldat portant une livrée aux armes de la Sérénissime déboucha d'une venelle. L'espace d'une seconde, celui-ci parut sur le point de se précipiter aux trousses de l'inconnu, aux oreilles coupées, mais, se ravisant, il porta à sa bouche une corne de chasse. Il s'apprêtait à lancer un signal d'alerte lorsqu'une silhouette furtive se glissa dans son dos. Un bras vigoureux ceintura le torse du garde, tandis qu'une main armée d'un poignard dessinait un orbe sanglant au niveau de sa gorge. Sans avoir eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait, le soldat s'affala au sol. Ses jambes s'agitaient encore dans d'ultimes convulsions lorsque son assaillant regagna la pénombre d'où il avait surgi, tel un spectre implacable. Ce fut seulement 10 minutes plus tard qu'une patrouille parvint jusqu'à la petite cour et remarqua la flaque de sang sur les galets devant l'entrée d'un étroit passage qui zigzaguait entre les façades. L'instant d'après, les gardes découvraient le cadavre de leur infortuné camarade. L'officier qui commandait l'escouade hésita sur la conduite à suivre. Celui qu'il traquait pouvait avoir trouvé refuge dans une des habitations jouxtant la cour. Toutefois, en entreprendre la fouille, c'était risqué de perdre un temps précieux. Il disposait par ailleurs d'un nombre d'hommes insuffisant pour boucler le quartier. Conscient qu'il ne pouvait tergiverser plus longtemps, il envoya l'un de ses subordonnés chercher du renfort et, misant sur le fait que le fugitif n'avait pas pris le risque de se cacher dans les environs immédiats de son crime, il sépara sa troupe en deux. Une dizaine d'hommes foncèrent sans le savoir dans la ruelle par où s'était échappée l'ombre assassine, tandis que les soldats restants, la hallebarde pointée en avant, s'engageaient sous la voûte de pierre et se lançaient, avec retard, sur la piste de leur véritable gibier. Durant l'heure qui suivit, ce paisible quartier de la ville fut le théâtre d'une fiévreuse chasse à l'homme. À maintes reprises, des soldats crurent apercevoir la silhouette du fugitif. Ils se ruèrent à sa poursuite, émettant des cris d'alarme pour rameuter leurs semblables.